Les témoignages se sont succédés cette semaine à la barre du tribunal de Marseille, dans une atmosphère extrêmement lourde, extrêmement pesante. À la barre, de jeunes adultes qui ont connu l'horreur. Le 14 décembre 2017, leur bus scolaire était percuté par un TER sur un passage à niveau. 6 de leurs camarades sont morts, 8 ont été grièvement blessés. La conductrice du car est jugée depuis lundi pour homicide involontaire. Difficulté de ce procès, les témoignages qui divergent notamment sur la question des barrières du passage à niveau. Étaient-elles ouvertes ou fermées? Témoignages, explications avec nos invités dans un instant. Mais d'abord les derniers éléments avec Elisabeth.
Dit au quatrième jour d'audience, Nadine Oliveira s'est effondrée et a dû être hospitalisée. C'est elle qui était au volant du car scolaire percuté par un TER à Mias. La collision a ôté la vie à 6 collégiens et blessé 17 autres. Les familles de victimes espèrent que la conductrice sera en état de répondre à leurs questions d'ici la fin du procès.
On a besoin de savoir la vérité, de savoir comment ça s'est passé et qu'elle accepte d'avoir fait une erreur.
Les juges vont tenter de comprendre ce qu'il s'est passé le 14 décembre 2017 au passage à niveau 25. Il est 16h07 quand un train régional entre en collision avec un autobus en provenance d'un collège de Mias.
Le car était éventré et les premiers témoins parlent de scènes de guerre.
La conductrice a toujours assuré qu'elle s'était engagée parce que la barrière était ouverte. Mais sur ce point, les versions divergent.
Les témoins que nous avons qui se situent de l'autre côté de la voie donc, explique que le bus en fait est venu vers eux, ce qui veut dire qu'il a franchi la voie ferrée alors que la barrière était fermée. Tout au moins pour eux, la barrière l'était puisqu'ils étaient arrêtés en face.
Aujourd'hui, difficile pour les passagers rescapés âgés de 11 à 14 ans à l'époque de se souvenir avec clarté. Une mémoire traumatique, selon leur avocate, qui ne les empêche pas de vouloir connaître la vérité.
Eux, ils sont commencés à se remettre en cause, ce qu'ils avaient dit, en se disant, est-ce que c'est ce que j'ai vécu ou est-ce que c'est ce qu'on m'a dit que j'avais vécu? Madame Oliveira, elle ne sait pas de se souvenir, elle essaie de se convaincre elle-même. C'est totalement différent.
Pourquoi la conductrice n'a-t-elle pas accéléré pour se dégager de la voie? Les somnifères qu'elle prenait chaque soir ont-ils pu altérer son état de santé? A-t-elle regardé son téléphone en conduisant? Autant de questions que se posent les parents d'Ophélia, Loïc, Teddy, Diogo, Alan et Jonas depuis bientôt 5 ans.
Beaucoup de questions, beaucoup de douleurs aussi évidemment dans ce dossier. On va évoquer tout cela avec nos invités. Guillaume Farr, notre consultant police justice. Bonjour Guillaume, merci
Bonjour,
d'être
Guillaume.
Là. Fabien Bourgeonnier qui est également avec nous. Bonjour monsieur, vous êtes le père de
Bonjour,
Loïc qu'on citait à l'instant, l'une des victimes de ce terrible accident. On va venir vers vous dans un instant. Je voudrais juste avant Guillaume, peut-être pour qu'on comprenne l'importance de ce procès, évidemment pour toutes les victimes. C'est un sujet qui a été pris, un procès qui a été pris très au sérieux par la justice, ce drame. Il y a eu énormément d'enquêtes, d'analyses qui ont été faites.
Oui, d'abord, il faut rappeler que ce procès est d'abord celui de Madame Oliveira, Nadine Oliveira. C'est elle qui est prévenue dans ce procès, et donc c'est d'abord son procès. Mais à côté d'elle, il y a toutes les parties civiles qui attendent aussi une vérité judiciaire et qui en fait attendent la réponse à une question et une seule. C'est est-ce que au moment du drame, le passage à niveau, est-ce que la barrière était relevée ou est-ce que la barrière était baissée? Elle dit la barrière était clairement relevée à ce moment-là, c'est un dysfonctionnement. Face à cela, il y a des témoignages qui ont été recueillis, notamment ceux de témoins qui quasiment tous disent que la barrière était baissée. Parmi les témoignages qui pèsent très lourd, il y a celui de la conductrice du train qui était en formation à ce moment-là avec son superviseur. Ils étaient deux et eux disent très clairement que la barrière était baissée et qu'ils ont vu le bus à très faible allure, 10 km/h, c'est une allure très faible, qui avait freiné au préalable, poussé lentement la barrière et est passé. À côté de ça, la SNCF, bien sûr, a été mise en cause et la justice a demandé des expertises. Il y a eu 4 experts qui ont rendu des conclusions. Ces experts, ils ont étudié 29 formes de dysfonctionnement possibles de la barrière. Et ils sont arrivés à la conclusion que ça n'était pas possible que cette barrière soit effectivement levée à ce moment-là. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont regardé 1722 accidents qui se sont produits à des passages à niveau entre 2006 et 2018. Pendant 12 années, ils ont observé 1722 types d'accidents. Et ils sont arrivés, les 4, de façon indépendante, à la conclusion que ni la SNCF n'était responsable d'un dysfonctionnement technique, ni le conducteur du TER, qui était donc une femme, qui était en supervision avec son instructeur, n'était responsable de quoi que ce soit. Et donc, en fait, ça a déporté complètement les soupçons sur la conductrice de bus, disant bah, écoutez, vu qu'il n'y a pas de panne technique, vu qu'il n'y a pas d'erreur de conduite de la part du machiniste de la SNCF, mais en fait, c'est vous, madame, qui êtes passée alors que cette barrière était effectivement abaissée.
Est-ce que, Guillaume, la conductrice du bus est la seule à dire que la barrière était ferme, ouverte?
Non, Dominique, vous avez raison. Il y a certains témoignages qui disent avoir vu cette barrière levée, notamment des témoignages des passagers du bus, mais pour beaucoup, ce sont des collégiens, des enfants, et il y a un sujet de temporalité, c'est-à-dire à quel moment, effectivement, ils ont vu cette barrière relevée. Et donc ça a été effectivement quelques témoignages que la défense essaye forcément de mettre au crédit de cette femme, mais qui a quand même toutes les contre-expertises contre elle. Puis ensuite, il y a un dernier élément, et Elisa Trenin le mentionne dans son reportage, c'est pourquoi n'accélère-t-elle pas ? Parce que, à un moment donné, elle s'engage, le train arrive à 60 km/h, c'est quand même une allure assez vive. Là-dessus, la conductrice du train enfonce le bouton arrêt d'urgence et ne le lâchera jamais. Elle finira par le lâcher plus de 300 mètres après l'impact. C'est dire à quel point cette femme était choquée de cet accident. Pourquoi le bus n'accélère pas? C'est l'arrière du bus qui est touché. Et en réalité, s'il y avait eu un coup d'accélérateur, on aurait peut-être pu éviter le drame. Et donc, c'est dire toutes les charges qui s'accumulent sur cette femme.
On parle de 3 secondes, hein. 3 secondes.
Oui, exactement. Mais 3 secondes pendant lesquelles, enfin, vous êtes un bon conducteur. Dominique, si vous appuyez sur l'accélérateur, vous pouvez éventuellement vous dégager.
Fabien Bourgeonnier, je rappelle que vous êtes donc le père de Loïc. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le père de Loïc qui est décédé dans cet accident. Vous êtes aussi le président de l'association à la mémoire de nos anges. On vient d'évoquer l'enquête. Il y a une personne qui sait ce qui s'est passé, c'est cette conductrice. Cette conductrice, elle s'est effondrée jeudi. Je termine juste, et évidemment, je vous laisse répondre, pardon, parce qu'il y a cette dernière information. L'avocat de la conductrice nous dit... Elle est victime d'un infarctus, elle est aujourd'hui en soins intensifs, ça veut dire qu'elle ne reviendra probablement pas dans la salle d'audience. Ça veut dire qu'elle ne vous apportera peut-être pas les réponses à vos questions. Comment vous réagissez à cette dernière information déjà ?
Alors, je voudrais déjà rectifier quelque chose. C'est pas l'arrière du bus, du car, pardon, scolaire qui a été pris, mais c'est bien le milieu. Et dans tous les cas, selon les experts routiers, en aucun cas, elle aurait pu échapper à cette malheureuse collision. Ça, c'est un point important. Après, au-delà, il faut bien savoir et bien comprendre qu'elle n'a absolument pas respecté le code de la route, donc soit le stop qu'elle a franchi délibérément, la route, les virages où elle roulait trop vite par rapport à la circulation, et toutes ces choses-là sur lesquelles elle a menti depuis le départ et qu'elle a commencé à avouer pendant ce procès. Donc, il faut bien partir de là. Donc, son malaise qui est survenu et que l'avocat de la défense... pointe du doigt par rapport aux méchants avocats de la partie civile, il faut bien comprendre que c'était des simples questions sur lesquelles elle était obligée de répondre et elle s'est ressentie dans ses retranchements et elle a fait son malaise. Donc son malaise qu'il faut prendre en compte, bien sûr, parce que c'est un malaise cardiaque, donc elle a le droit à une parole, mais nous, on a le droit à une réponse. Donc effectivement, là-dessus, je pense qu'il serait peut-être important, peut-être, de mettre ce procès en suspens. Alors, je pense que ça va être compliqué, mais c'est quelque chose qui me trotte à moi personnellement dans la tête en tant que père de victime, pour qu'on ait le droit à nos réponses. Il faut la laisser se soigner, récupérer de son malaise, parce que voilà, elle a fait un malaise, donc faut le comprendre. Mais encore une fois, je veux aussi souligner que ce n'est absolument pas un acharnement de notre part. Nous, ce qu'on veut en tant que parents, c'est des réponses. Il y a des choses qui ont été dites pendant plus de 5 ans, quoi, pendant au moins 5 ans, et qui se retrouvent fausses à l'heure actuelle, où elle est en train de l'avouer. Elle a clairement reconnu mentir. Donc c'est pour nous important de connaître nos réponses. En plus, c'est pas forcément pour nous, c'est surtout pour nos enfants.
Et justement, Fabien Bourgeonnier, comment on a vu vos enfants témoigner, parce que je dis vos enfants, parce que je pense qu'aujourd'hui vous êtes tous liés par cela, témoigner cette semaine, raconter ce qui s'est passé. Comment vous vivez ce procès? Comment ces enfants qui sont encore là vivent le procès?
Alors, je parlerai pas pour eux, mais en tout cas, moi, en tant que père, je suis très fier de ces enfants et du courage qui les a amenés à témoigner à cette barre devant nous, parents, devant le tribunal et devant la prévenue. Voilà, chaque enfant a sa... C'est pas une vision qu'ils ont, c'est un traumatisme. Donc, chaque enfant, il faut bien se rendre compte qu'ils ont vécu une situation, si vous voulez, soit ils étaient en train de s'amuser, discuter, peu importe, et ils ont un souvenir qui leur est resté dans la tête. Et donc, le jour même du drame, bah, fatalement, ils étaient dans ce souvenir-là. Et certains, en presque 5 ans, ont réfléchi, on se dit, mais c'est pas possible et tout ça. D'autres, peut-être que non. Et ça, il faut bien sûr le respecter avec beaucoup d'humanité et beaucoup de cœur. Parce que ces enfants sont des victimes, ont vécu une scène de guerre avec des chocs importants et des membrements, tout ça. Et ça, il faut le garder en tête. Et c'est avec grande fierté aujourd'hui que je voudrais leur rendre hommage.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On va voir quelle suite va évidemment prendre ce procès. Je voudrais aussi qu'on aille voir Alexis Puyette. Alexis, vous suivez pour BFM TV, vous êtes notre correspondant à Marseille, ce procès. Cette journée de jeudi, elle a été particulièrement éprouvante. C'est cette journée où la conductrice s'est effondrée. Je rappelle l'avocat qui nous dit à l'instant qu'elle a été victime d'un infarctus, qu'elle est en soins intensifs. Comment ça s'est déroulé et globalement, quelle est l'atmosphère dans ce procès ?
Bah écoutez, elle a complètement craqué en fait. Il était environ 15h jeudi et en fait un des avocats de la partie civile lui demandait quel était son dernier souvenir avant l'accident et là, eh bien, elle s'est complètement effondrée en larmes, incapable de répondre. Et là, du coup, eh bien, la présidente du tribunal a suspendu l'audience et vous l'avez dit, Nadine Oliveira a été prise en charge par les pompiers. Elle a été transférée à l'hôpital Nord dans un service de cardiologie puisqu'elle a fait un infarctus, le syndrome du cœur brisé, dit-on, qui survient. Après un choc psychologique intense. Ces avocats qui ont dit que ces questions répétées de la partie civile étaient une violence, une souffrance pour elle. C'est un être fragile, ont-ils dit. Un peu plus tôt, l'audience s'était intéressée à son parcours médical, celui d'une femme avec un syndrome dépressif, avec un suivi médical important. Elle prenait un somnifère depuis 2011. Elle avait des problèmes d'insomnie. Alors, les experts ont conclu que cela n'avait pas eu d'incidence sur l'accident lui-même, mais en tout cas, l'audience a dessiné le portrait d'une femme qui vivait une période difficile depuis le décès de son père en 2009 et une femme qui a été détruite psychologiquement par l'accident. Alors évidemment, sa présence pour demain à l'audience est maintenant compromise, mais en tout cas, on a entendu les parties civiles et notamment Fabien Bourgeonnier tout à l'heure qui disait qu'il voulait des réponses à ces questions. C'est ce que disaient tous les parents des victimes. Ils veulent que le procès avance et que Nadine Oliveira puisse dire la vérité.
Merci beaucoup Alexis Puyette. On continue à suivre évidemment ce procès avec vous. Guillaume Damos, on entendait M. Bourgeonnier dire à l'instant, moi je voudrais que le procès soit suspendu parce que je veux qu'elle revienne. Qu'est-ce qui peut se passer si elle reste hospitalisée ?
Il peut y avoir effectivement un report, mais ça c'est au juge de le décider, ou elle peut effectivement être jugée corps absent, comme on dit. Le procès peut se poursuivre. Enfin, il y a une dernière hypothèse que naturellement personne ne souhaite, c'est que son état de santé se dégrade et qu'elle décède, et auquel cas il n'y a plus de procès. Et c'est arrivé dans d'autres affaires, je pense notamment à l'affaire des disparus de Mourmelon que Dominique connaît bien. La juge d'Enchanal se suicide le premier jour d'audience, plus de procès, c'est malheureusement terminé. Après, par rapport au fait qu'il y a un stop qui a été grillé, c'est ce que disait ce père de victimes. Il faut dire qu'il y a aussi une reconstitution qui a été réalisée avec un pilote de rallye qui a conduit le bus. Et là aussi, ça pèse très lourd contre cette femme parce que sa conduite était dangereuse à certains moments. Et ça, c'est des éléments qui continuent malheureusement de l'accabler et qui fait qu'il y a une vérité judiciaire qui est attendue de la part des parties civiles.
Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces explications. Évidemment, on va continuer à suivre ce procès. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour évoquer de nouveau l'affaire Delphine Jubilar. Est-elle un tournant, cette affaire ? De nouvelles expertises réalisées sur le réseau de téléphonie apparaissent comme accablantes pour Cédric Jubilar. Le téléphone de Delphine n'aurait jamais quitté le domicile conjugal. Dans ces conditions, les explications de Cédric Jubilar tomberaient à l'eau. Alors, qu'en dit Cédric Jubilar ? Une nouvelle fois entendu vendredi par les juges. La réponse, dans un instant. À 13h24, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police, justice. Et si c'était l'élément qui faisait tout basculer ? Et si pour la première fois, les enquêteurs disposaient d'un élément concret contre Cédric Jubilar ? Cette semaine, le résultat d'une analyse réalisée sur le réseau de téléphonie le soir de la disparition de Delphine a été révélé et elle apparaît comme accablante pour Cédric Jubilar. Le téléphone de Delphine n'aura en effet jamais quitter le domicile conjugal. Les réactions des différentes parties, des avocats, des proches de Delphine Jubilar, des avocats de Cédric Jubilar, l'expertise, les explications, ce sera dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, le point sur ces derniers éléments qui changent tout avec Elisa Tranin et Néla Prod.
La nuit de la disparition, Cédric Jubilar a tenté de joindre Delphine par téléphone près de 200 fois. S'est-il réellement inquiété pour elle ? Sa défense est mise à mal par de nouvelles analyses. Cette nuit-là, le portable de Delphine se trouvait dans la maison. Deux expertises ont permis d'affiner le périmètre dans lequel le téléphone a borné dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. On savait déjà qu'il était resté dans un rayon de 2 km autour du domicile des Jubilar. Cette fois, les conclusions des experts sont unanimes. Le téléphone était positionné à proximité du domicile.
La première analyse, elle est effectuée par les gendarmes. Ces gendarmes, ils se mettent en 8 points différents de Cagnac-les-Mines. Ils vont ensuite faire des relevés. Et ce qu'ils constatent, c'est que ce téléphone aurait borné sur 2 points. Et ces 2 points, ils se situent autour ou dans le domicile de Delphine Jubilard. Il y a une autre expertise, cette fois-ci, qui est faite par des experts près la cour d'appel de Toulouse. Et ce qu'elle dit, eh bien, c'est que le téléphone, entre 22h26 et 7h48, n'a pas bougé de place. Il n'était ni hors tension, ni en mode avion et ni éteint.
Les enquêteurs vont alors détailler l'activité du téléphone cette nuit-là. 22h26, Delphine regarde la télévision chez elle. 22h58, elle envoie un dernier message Snapchat à son amant. 6h52, le téléphone est déverrouillé manuellement. À ce moment-là, les gendarmes sont chez les Jubillard, alertés par Cédric. Mais celui-ci est resté loin de leur regard dans la maison, pendant qu'ils inspectaient l'extérieur. 7h48, le téléphone s'éteint définitivement. Il n'a jamais été retrouvé.
Alors cet élément est-il un tournant dans cette affaire? On va essayer d'y voir clair, de vous apporter des réponses avec nos différents invités. Maître Mourad Batil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Général François Daoust, bonjour. Merci de nous accompagner. On suit, on décrypte cette affaire et cette enquête avec vous régulièrement. Ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Maître Alexandre Martin, maître Emmanuel Franck, bonjour à vous. Vous travaillez un dimanche, vous nous accordez un peu de temps dans votre emploi du temps. Merci à vous d'être avec nous parce que c'était évidemment important de vous entendre aussi aujourd'hui, on va venir vers vous dans un instant. D'abord, Général, vous, le spécialiste de la science criminelle, ces analyses, elles sont extrêmement importantes. Chaque partie va nous livrer son regard dessus. Vous, en tant que spécialiste, il faut d'abord peut-être préciser quelque chose. C'est la première fois qu'on utilise ce type d'analyse dans une affaire criminelle ?
En fait, non, ce n'est pas la première fois. Il y a ce que l'on fait généralement, et là, que ce soit les experts de la gendarmerie ou des experts de la cour d'appel de Toulouse, c'est affiner les relevés qu'il y a pu y avoir. Se remettre dans les conditions de façon à voir si le téléphone était au plus près ou au contraire était sorti, avait borné ailleurs. À partir de ce moment-là, on est sur le niveau d'incertitude scientifique qui peut dire que le téléphone était dans 200 mètres ou bien au-delà, ou au contraire, au plus près. Et là, les experts de la cour d'appel sont allés beaucoup plus loin dans leur relevé scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont diminué l'incertitude scientifique pour, dans ce qu'on appelle une probabilité, elle soit grandement là.
Général, je ne vais pas faire le boulot des avocats de Cédric Jubillard, mais c'est assez facile à démonter, pardon, mais on connaît toutes ces affaires judiciaires, on a travaillé, vous et moi, dessus. On connaît tout un tas d'histoires où des téléphones se promènent sur l'autoroute, passent de relais téléphonique en relais téléphonique. Dès qu'un téléphone cesse d'accrocher un relais, il en capte un autre.
Bien sûr.
Mais de là à dire que le téléphone de Delphine Jubillard se trouvait dans la maison ou aux alentours de la maison, c'est quoi cette nouvelle technologie? Ça vient d'où? Et comment c'est possible?
Là-dessus, ils doivent travailler très certainement, et là, ils l'expliqueraient mieux que moi, il faudrait que je puisse avoir l'expertise, ils doivent travailler sur la puissance du signal. C'est-à-dire que la puissance émise, reçue, fait qu'on peut arriver à avoir une détermination d'une certaine distance par rapport au bornage. Là, il n'y a pas eu de relais qui a sauté, etc. Ça a toujours été le même relais. On n'est pas dans l'incertitude en disant « nous avons un autre relais qui part ailleurs », etc. Donc, c'est très intéressant matériellement d'avoir ces éléments.
Maître Batik, comment regardez-vous ces deux analyses qui sont donc arrivées cette semaine? Est-ce que pour vous, c'est un tournant? Est-ce que pour vous, c'est une preuve contre Cédric Jubilard?
Alors, c'est pas forcément un tournant, mais c'est un élément de plus qui, à mon sens, s'ajoute aux différents éléments qu'il y a eu tout au long de l'instruction. Ce que cet élément nous apporte, c'est que Delphine n'a pas quitté le domicile ce soir-là. Donc, ça écarte toutes les thèses selon lesquelles elle serait sortie d'elle-même de chez elle, d'abord. Ça écarte ensuite la thèse selon laquelle elle serait partie rejoindre volontairement quelqu'un qui serait à l'extérieur. Et ça écarte enfin la thèse selon laquelle elle aurait pu être retirée retirée, enlevée par un rôdeur aux alentours du domicile. Et donc, si vous voulez, mécaniquement, ça recentre un peu l'attention autour de Cédric Jubilard, parce qu'on sait que ce soir-là, elle a laissé son téléphone. Ça, on le sait maintenant de façon définitive, matériellement, que son téléphone était au domicile. Mais on sait aussi qu'elle ne voyait pas très bien sans lunettes et que ses lunettes étaient au domicile, ainsi que son portefeuille, que ses cartes bleues, que ses clés de voiture, qu'elle était en pyjama, qu'il faisait nuit noire et qu'elle n'a laissé ni lettres, ni courrier, ni quoi que ce soit qui permettrait d'envisager une autre hypothèse.
Maître Emmanuel Franck, on va alterner avec vous deux. Vous avez le micro, donc je me tourne vers vous. Comment vous considérez ces analyses? On se dit, nous, si le téléphone est à la maison, pourquoi les gendarmes ne l'ont-ils pas trouvé? Pourquoi Cédric Jubilard ne l'a-t-il pas donné aux gendarmes? Quelle est votre version sur ces analyses?
Moi d'abord et en premier lieu, je suis un peu étonnée des conclusions hâtives des uns et des autres qui consistent à dire, et je l'entendais à l'instant, que nous savons maintenant de manière définitive que le téléphone de Delphine était au domicile du couple Jubilard. Ça n'est absolument pas ce que dit cette expertise et on va en parler hein, bien évidemment de ce qu'on doit penser de cette expertise et de cette méthodologie qui a été employée, mais quoi qu'il en soit, cette expertise ne dit pas que le téléphone est dans le domicile des Jubilard. Donc attention, déjà,
que dit-elle
ça sera
selon
ma première
vous? Parce que nous, on a tous compris
lieu.
Ça, a priori.
Mais cette expertise, d'abord, il faut savoir qu'elle est faite selon une méthodologie qui est quand même très particulière, c'est-à-dire une méthode empirique qui va consister pour des gendarmes à aller sur place quasiment 2 ans plus tard, à constater eux-mêmes, et ils l'écrivent dans le procès-verbal, que l'architecture du réseau téléphonique n'est pas la même et n'est plus la même qu'il y a 2 ans. Et donc, si j'étais jusque boutiste, je dirais à partir du moment où on fait ce constat-là, on doit s'arrêter immédiatement dans l'expertise et l'analyse qu'on entend en tirer, puisque l'on sait que le réseau téléphonique n'est plus le même. On sait également, et je l'entendais tout à l'heure de la part d'un de vos intervenants, on sait que cette méthode-là est quand même extrêmement peu fiable, que ça résonne par le biais de probabilités, et nous savons notamment qu'à 1 seconde d'intervalle dans l'étude qui a été faite, le téléphone portable a borné 2 cellules qui sont séparées et distantes de 14 kilomètres. Donc à partir de là, quelles conclusions pouvons-nous en tirer, si ce n'est ce que l'on sait depuis le début, à savoir que le téléphone portable était pas loin du domicile du couple Jubilard, c'est-à-dire à proximité de Cagnac-les-Mines dans la nuit des faits.
Alors, à proximité du domicile ou au domicile, c'est quand même ce qu'on apprend dans cette analyse, même si après, on peut juger que ces analyses sont fausses.
Ces analyses n'apportent absolument rien de plus que ce que nous avions au dossier. Il faut savoir que les données, c'est-à-dire ce qu'on appelle les événements réseau, qui ont été étudiés, étaient en réalité dans le dossier depuis 2 ans. C'est-à-dire depuis le 28 décembre 2020, les services de gendarmerie avaient ces données-là et n'ont pas jugé utile pendant presque 2 ans de les exploiter. Et quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments supplémentaires, si ce n'est qu'on a le téléphone qui borne et déclenche une cellule qui est à 2,5 km du couple Jubilard et il est faux de considérer que cette expertise affine les choses dans la mesure où elle est réalisée 2 ans après avec une architecture de réseau qui n'est plus la même.
Alors, en général, on avait cette zone de 2 km à la base. Là, aujourd'hui, elle se resserre.
Là, selon les faits, les faits qui nous sont communiqués, elle se resserre. Alors, dire que les gendarmes n'ont rien fait, n'ont pas exploité pendant 2 ans les expertises, là, je laisse l'avocate à ses responsabilités, ça c'est autre chose. La question qui serait intéressante aussi, c'est que si l'expertise avait démontré que le téléphone avait borné à 20-30 kilomètres de là, je pense que l'incertitude scientifique et la remise en cause des expertises ne seraient pas faites par les avocats de Cédric Jubilard. Mais chacun est dans son rôle et c'est tout à fait normal. Et il faut reconnaître jusqu'au bout le principe de présomption d'innocence. On peut gloser sur les expertises, mais elles existent, elles sont là et le téléphone était à proximité et apparemment à très proche proximité du domicile.
On va prendre un tout petit peu de recul sur ces analyses. Maître Batty, comment vos clients, comment la famille de Delphine Jubilard vit tous ces éléments que l'on découvre les uns derrière les autres, peut-être trop d'ailleurs, mais que toute la France vit et suit cette enquête, comment ils vivent tout ça ?
Bah, ils le vivent difficilement, évidemment. Pour l'instant, le corps de Delphine n'a pas été encore retrouvé, donc ils ne peuvent pas procéder à un deuil comme tout le monde le souhaiterait et l'envisagerait. Donc ils le vivent avec beaucoup de douleur, à chaque rebondissement, à chaque nouvel élément, à chaque pièce du puzzle qui s'ajoute les uns aux autres. Ils le vivent avec beaucoup de douleur et ils attendent que la vérité soit faite et qu'ils puissent procéder à un deuil dans les meilleures conditions possibles.
Est-ce qu'ils ont, eux, une intime conviction, pour reprendre cette expression?
Maintenant, pour l'instant, ils font vraiment confiance en l'institution judiciaire et on sait que l'instruction, c'est le temps long, on n'est pas nécessairement corrélé au temps médiatique. Donc, ils sont patients, ils font confiance à l'institution judiciaire et ils constatent avec beaucoup de patience les pièces qui s'accumulent les unes aux autres.
Est-ce que ce sont des clients très présents qui s'intéressent beaucoup au dossier, des gens qui vous appellent régulièrement, qui vous posent beaucoup de questions ou des clients qui attendent que la justice fasse son travail, que des expertises nouvelles arrivent?
Alors, je dirais un peu les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très respectueux de l'institution judiciaire, donc ils n'interfèrent pas dans les actes qui sont diligentés par les magistrats instructeurs et les équipes qui sont conduites par ce magistrat instructeur, et à la fois ils sont effectivement très présents, ils m'appellent très régulièrement pour savoir où nous en sommes dans la chronologie, ce qui se passe, les éléments, ce que veulent dire les éléments qui sont rentrés au dossier, donc ils attendent la vérité. Faut bien imaginer que ce sont des personnes qui ont perdu quelqu'un de très très proche d'eux, la chair de leur chair, et donc nécessairement ils attendent des réponses, ils attendent un dénouement à ce dossier.
Je vais vous poser une question toute simple, est-ce que vous pensez que pour eux, c'est Cédric Jubillard?
Alors, pour l'instant, il est présumé innocent, donc on est encore dans le temps de l'enquête.
Même s'il reste présumé innocent,
si vous voulez, ils sont vraiment. Faut comprendre que mes clients sont très respectueux de l'institution judiciaire. Donc, pour eux,
ils constatent
qu'effectivement, il y a de plus en plus de preuves qui accablent Cédric Jubillard. Il y a de plus en plus d'éléments qui vont à l'encontre et à l'endroit de Cédric Jubillard. Donc maintenant, nécessairement et mécaniquement, je dirais presque, leur conviction, elle s'affine au fur et à mesure des éléments qui rentrent au dossier.
Maître Alexandre Martin, vous avez récupéré le micro, je me tourne vers vous. Vous avez vu le juge vendredi, Cédric Jubillard a de nouveau été confronté à ces questions. Est-ce que les choses ont pour vous, est-ce que vous avez l'impression, pardon, je reformule ma question, que les choses sont en train d'avancer? Et il y a un point aussi, je voudrais évidemment qu'on évoque avec vous, c'était l'enquête de probabilité pour qu'il soit remis en liberté sous bracelet électronique. Nos confrères du Parisien, Ronan Folgoas, nous dévoilaient en fin de semaine que ça avait été rejeté, cette demande, parce que le logement qui aurait pu accueillir Cédric Jubillard était insalubre. Je crois que c'est une version que vous ne goûtez guère.
Écoutez, alors il y a beaucoup d'informations dans votre question. Il y a eu un interrogatoire vendredi. Déjà, de manière objective, on constate que la justice s'essouffle. Un interrogatoire qui a duré en tout et pour tout 1h15, avec des questions qui reviennent en boucle. Et on n'avance pas. Pour dire deux mots sur cette expertise téléphonique, c'est une non-information, ce n'est absolument pas fiable, et ça détermine simplement que le téléphone est dans le secteur de Gagnac-les-Mines, ce que l'on sait depuis le début. S'agissant de cette enquête de faisabilité, nous avons la démonstration d'une justice qui s'entête et qui, et là je le dis, je l'ai déjà dit et je le redis, qui parfois peut être malhonnête. Un individu propose un logement éloigné de Gagnac. C'est une maison qui dispose de deux appartements. Un n'est pas en état d'être habitable et un est parfaitement habitable pour être loué jusqu'à l'année dernière. Eh bien, le SPIP, service d'insertion, va rendre un rapport au terme duquel ne va être décrit que l'appartement qui est insalubre. C'est fatigant pour la défense, c'est insupportable de voir cet entêtement, cet acharnement, alors que l'on propose une issue qui permettrait de faire respecter la présomption d'innocence, de faire que cet homme soit libre, sous surveillance électronique, à plusieurs kilomètres, à plusieurs dizaines de kilomètres de Cagnac-les-Mines. Voilà. Alors, c'est tout à l'avenant. La veille d'une audition, vous avez une expertise téléphonique, ou plutôt des interprétations qui sont balancées dans les médias, comme quoi, de manière précise, le téléphone est dans la maison. C'est faux. Vous avez une enquête
Maître
de faisabilité
Martin.
Qui est négative, parce qu'on décrit un... Oui.
Je me permets, parce que les mots que vous employez sont évidemment très importants. Vous dites qu'il y a une justice malhonnête. Est-ce qu'il y a, vous employez le mot d'acharnement, est-ce qu'il y a un acharnement contre Cédric Jubillard aujourd'hui?
Mais parfaitement. Je pèse mes mots. Je dis les services de probation ont été malhonnêtes intellectuellement dans la présentation des choses. Deuxièmement, il y a un acharnement contre Jubillard et surtout, il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement et une volonté désormais de ne pas respecter la présomption d'innocence. Oui, je le dis, parce que depuis le début, on part, la justice, l'accusation, part du principe que ce ne peut être que Cédric Jubilat, et on fait tout pour essayer de comment dire, quand la défense avance des arguments et tous les arguments depuis la conférence de presse du procureur ont été démontés, eh bien ça fait rien, on s'entête, on s'acharne et il n'y a toujours pas d'éléments de preuve, il n'y a toujours pas de preuve que cet homme puisse avoir une responsabilité dans la disparition de sa femme.
Maître, on a l'impression qu'Emmanuel Franck et vous êtes les deux seuls à ne pas comprendre que la justice ne veut pas laisser sortir Cédric Jubilat de prison. Donc vous faites des demandes de mise en liberté, mais avant même de les faire, vous avez déjà la réponse, ils ne le laisseront pas sortir.
Non,
alors pourquoi vous
vous
acharnez ?
Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je veux dire, nous, parce qu'on est avocat et qu'on défend un homme, si les avocats ne s'acharnent pas, autant qu'on laisse tomber. Ce ne sera jamais notre volonté et croyez bien que nous allons continuer le combat.
Merci beaucoup, Maître Martin. Merci, Emmanuel Franck. Un mot peut-être, donc, il n'y aura pas de sortie à ce stade sous bracelet électronique de Cédric Jubilat. Est-ce que sa famille aurait pu, la famille de Delphine Jubilat aurait pu accepter cette hypothèse ?
Non, pour l'instant, ils ne sont pas du tout dans cette volonté d'accepter cette hypothèse. Pour l'instant, Cédric Jubilat, il est en détention provisoire. L'enquête se poursuit. Il y a encore des actes d'investigation qui doivent être faits. Et donc, ils préfèrent ils souhaitent que la justice se poursuive le plus sereinement possible. Et l'objectif de la famille, il faut bien le comprendre, hein, l'objectif premier de la famille aujourd'hui, c'est clairement pas de retrouver Delphine Jubilat vivante, c'est de retrouver le corps de Delphine Jubilat pour pouvoir procéder à un deuil.
Ça m'amène à une toute petite dernière question pour vous, Général. Alors, cette analyse, ces analyses de téléphonie, elles sont contestées, chacun est dans son rôle, vous le disiez. Si, on va prendre l'hypothèse qu'elles disent vrai, si ce téléphone est resté à la maison ou autour de la maison, est-ce que ça veut dire que le corps de Delphine serait dans un périmètre finalement très restreint autour de la maison ?
Alors, on ne peut pas lier le dépôt du corps, si tant est que ça soit le mis en cause, avec le fait que le téléphone soit resté à proximité. Là-dessus, la personne qui a déposé le corps à un endroit a décorrélé l'un avec l'autre. C'est-à-dire, j'ai une maîtrise de la téléphonie qui permettra de faire certaines choses si j'en ai besoin. Par contre, le corps, il peut être très près, comme un peu plus loin, et pas forcément à des dizaines et des dizaines de kilomètres.
Et quelque chose me dit qu'on reparlera de cette affaire avec vous dans pas si longtemps. Merci beaucoup, Général. Merci, Maître Batic. Merci, Maître Alexandre Martin et Emmanuel Franck, d'avoir pris un peu de temps dans votre journée pour être avec nous. Évidemment, on continue à suivre cette affaire dans l'émission. Affaire suivante. Pour l'instant, l'affaire de la semaine. Il fallait l'appeler Zeus et se soumettre à tous ses caprices. Claude Alonso est aujourd'hui tombé de son Olympe. C'est le moins qu'on puisse dire, Olympe qu'il avait imaginé dans cette petite ville de Gujan-Mestras. Pendant 15 ans à la tête de cette micro-secte, il a abusé de plusieurs femmes. La justice l'a jugé coupable vendredi du viol de 3 femmes, dont sa fille, et d'avoir abusé de la faiblesse de 5 autres femmes. Habillé en toche pour prodiguer ses enseignements, il avait fait de l'orgasme, le remède pour sauver le monde. Dans un instant avec nos invités, le récit de ce procès, les clés pour comprendre les dessous de cette manipulation. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Elisa Tran.
Affalé sur son fauteuil roulant, Claude Alonso, 81 ans, nie tout en bloc. Les viols, son surnom Zeus et ses déesses, des esclaves sexuelles qu'il a manipulées dans les années 2000. Deux d'entre elles, dont sa propre fille, ont fini par s'enfuir et dénoncer cet Olympe cauchemardesque. Dans sa maison girondine, au milieu des pins, comme le montrent ces images du nouveau détective, le gourou avait reconstitué un univers inspiré de la mythologie grecque. Temple, fresque à son effigie, table de loi rédigée par lui-même. Il se faisait appeler Zeus et prêchait chaque soir la parole divine. Soumise à des travaux sexuels, ses ouailles devaient atteindre l'orgasme parfait pour sauver l'humanité. Pour dissiper toute résistance, Zeus leur faisait ingérer des boissons sacrées contenues dans des jarres, à base de vin et de lexomil, un anxiolytique puissant, de sperme et des menstrues de la communauté. De son trône en velours rouge, dans sa mezzanine de Gujan-Mestras, à la salle des assises, Zeus n'est qu'un grand manipulateur pervers et narcissique, a résumé l'avocat général au procès. La justice des hommes a condamné Claude Alonso à 18 ans de prison.
Histoire totalement folle dont on va essayer de vous raconter les dessous, essayer de comprendre aussi les levier de la manipulation avec nos invités. Maître Malène Picotinguet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de la fille de Claude Alonso. Et Johanna Rosenboom, bonjour, bienvenue. Vous êtes psychologue clinicienne et je le disais, c'est avec vous qu'on va essayer de comprendre comment une telle manipulation peut durer aussi longtemps. D'abord, maître, vous êtes la seule ici à avoir vu Claude Alonso, à avoir eu ce procès, à avoir cet homme en face de vous, 81 ans. Après tout ce qu'il a fait, on aurait pu s'imaginer qu'il reconnaisse, qu'il regrette, qu'il s'excuse. Rien de tout ça.
Rien de tout ça, bien évidemment. Il continue de nier les faits, j'ai envie de dire, avec beaucoup de fermeté. Pour autant, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant un gourou reconnaître ce type de faits, d'autant qu'il perdure dans ses actions et que forcément, ça mettrait à mal sa stratégie devant ses adeptes.
Qu'est-ce qu'il dégage ? Qu'est-ce qu'il a dégagé pendant le procès ? Comment vous l'avez ressenti humainement ?
Humainement, il dégage quelque chose de malsain, en premier lieu, et quelqu'un qui se moque de la justice, qui se moque de ses victimes et qui joue sur son état de santé pour prendre pitié, mais ça n'a pas fonctionné.
Et ça l'a desservi. Hein.
Et ça l'a desservi.
18 ans avec 9 ans de sûreté. C'est quand même, c'est pas attendu, ça c'est...
Non, ce n'était pas attendu, ce n'était pas requis par Monsieur l'avocat général. Et effectivement, ça l'a beaucoup desservi parce que pendant tout ce temps, en fait, il a violé son contrôle judiciaire. Il ne s'en cache même pas. Et du coup, je pense que la Cour n'a pas du tout apprécié cette façon de procéder, d'instrumentaliser la justice et de ne pas respecter la loi alors qu'il avait une possibilité, une chance à ce moment-là.
Donc, a priori, il est en prison jusqu'à au moins l'âge de 90 ans.
A priori.
A priori.
Dominique rappelait l'importance de la peine, effectivement, qui a pu même aller jusqu'à vous surprendre. Peut-être qu'il faut rappeler la gravité de ce qui s'est passé, que vous nous racontiez ce qu'a vécu sa fille, ce qu'ont vécu les autres femmes dans cet Olympe, dans cette micro-sec de Gujan-Mestras. Comment ça se passait ?
Alors, ça se passe, si vous voulez, qu'il y a petit à petit une mise en place de l'emprise mentale, hein, ce qu'on appelle la suggestion psychologique. C'est ça, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, si vous voulez. Et grâce à ça, il va pouvoir commettre ses infractions, notamment viol et viol par ascendant en ce qui concerne sa fille. Donc, c'est là où réside la gravité.
C'était quoi ? C'était des punitions. On lit, par exemple, que quand il se passait un événement climatique grave, il disait « c'est de votre faute, vous n'avez pas été suffisamment gentil avec moi ».
Oui, c'est une façon, si vous voulez, de maintenir la pression, de maintenir une menace et un chantage, en fait, pour que la personne reste et n'ait plus d'espace pour réfléchir, n'ait plus d'espace psychique, en fait, pour se libérer, en fait, et quitter les lieux, tout simplement.
Comment, Johanna, peut-on, à ce point, réussir à manipuler des gens, à se faire appeler Zeus, à avoir ses enseignements, à dire, voyez, s'il pleut trop, c'est de votre faute, et peut-être qu'il y avait des conséquences sexuelles, puisque malheureusement, elles ont été violées à plusieurs reprises. Comment on arrive à faire ça ?
Au centre de ces mécanismes, il y a l'emprise psychologique. Mais pour pouvoir manier l'emprise psychologique, il y a un personnage, une personnalité, avec ce qu'on appelle une hypertrophie du moi, c'est-à-dire une personne mégalomane, narcissique. Vous voyez, il est à la fois Zeus et il détient l'étape de la loi. Donc, il est un peu Zeus, un peu Moïse. Parfois, ils sont Jésus. Parfois, ils sont les dieux de l'univers. Il y a une fausseté du jugement, c'est-à-dire des incohérences et des cognitions erronées, c'est-à-dire des fausses croyances. Puisque la Terre a vocation à disparaître et l'humanité... avec, je dois avoir des relations sexuelles et diffuser comme ça ma semence pour repeupler la planète. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir avec le reste de l'humanité. C'est comme ça qu'il induit progressivement ce qu'on appelle de la méfiance communément, mais qui est en fait de la paranoïa. Plus il est paranoïaque, plus ses adeptes le deviennent aussi, et c'est là que la soumission et la peur commence. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une psychorigidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de discuter avec lui. On ne peut pas le raisonner, il n'y a pas de subjectivité possible. Sa vérité, c'est la vérité de ses adeptes. Et quand on a des adeptes qui ont été fragilisés, psychologiquement, ou par des deuils, ou par des soucis de santé, ils se remettent à cette personne qui est finalement la personne providentielle.
Et Johanna, est-ce qu'il y a du côté des victimes un profil type ? Est-ce que certaines personnes, maître, enfin question à toutes les deux, hein, est-ce que certaines personnes sont venues qui, elles, ne sont pas tombées dans le piège, qui l'essayaient d'approcher ou qui ont réussi à partir, à échapper à son emprise, à quitter cette secte? Oui.
Tout le monde ne peut pas tomber sous l'emprise mentale de quelqu'un. Là, dans ce cas de figure, dans ce dossier, si vous voulez, on a des femmes qui sont toutes fragiles. Ça a été établi, ça a été expliqué largement pendant les débats.
Un profil souvent identique.
Comment ?
Un profil souvent identique, alors.
Un profil souvent identique parce qu'elles ont une fragilité.
Je me permets de préciser, parce que quand on dit fragilité, il faut peut-être expliquer, c'est des parcours de vie difficiles.
Oui.
C'est des femmes qui ont souffert par le passé.
Soit par des divorces, soit par un deuil, soit par un précédent viol. Donc vraiment, des ruptures déjà qui sont entamées dans l'enfance ou par la suite et qui font qu'elles elles trouvent un refuge chez monsieur Claude Alonso.
Donc c'est un prédateur qui va chercher ses victimes.
Oui, mais c'est pas une question de capacité intellectuelle ou cognitive. Il faut savoir que, en théorie, tout le monde peut être victime d'un gourou, mais c'est ces parcours de vie qui ont été fracturés, fragilisés par des deuils, par des abus, par une enfance difficile, par des problématiques de santé ou de travail qui font qu'à un moment donné, on va être psychologiquement, psychiquement plus fragile, fissuré, et cette personne qui est très intelligente, qui voit la faille, qui voit la personnalité providentielle qui peut devenir pour cette personne fragilisée, va mettre en place finalement un jeu, une comédie qui va le faire devenir la personne tant attendue, celle qui va nous permettre d'aller mieux et de nous sauver.
Une comédie, c'est exactement ce qu'il avait organisé dans son Olympe. Je citais cette maxime, l'orgasme va sauver le monde. C'est ce qu'il disait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qu'il expliquait vraiment à ses victimes sur ce point-là ?
Ah, mais il cherchait à avoir des relations sexuelles avec elle, tout simplement. Et il utilisait un langage propre à lui, qu'il reprenait dans ses croyances et dans sa mythologie grecque. Et il recherchait l'orgasme pour se régénérer, faire des transferts d'énergie. Bon.
Il avait rebaptisé ses victimes aussi.
Il a rebaptisé ses victimes. Ça aussi, c'est quelque chose de très classique qu'on retrouve dans beaucoup de dérives sectaires, avec une déconstruction de l'identité des individus et une reconstruction par lui, selon ses souhaits et selon son propre fantasme.
Parce que rebaptisé avec des noms de déesses de l'Olympe, c'est ça, il avait vraiment créé un univers parallèle.
Absolument. Chacune d'entre elles détient un prénom ou un nom de mythologie grecque, y compris lui, puisque lui, c'est Zeus.
Ce sera assez surprenant que ses avocats ne se manifestent pas, ne fassent pas appel, hein, parce qu'un homme de 81 ans en prison, on parlait tout à l'heure, juste avant de préparer cette émission.
Voilà, c'est ce qu'a dit Kouchner. Son avocat, hein, ils feront une demande de suspension de l'appel.
Voilà, la loi Kouchner qui dit qu'on ne met pas en prison des gens de plus de 75 ans, je crois, j'en suis pas loin, c'est à peu près ça. Il a 81 ans, pardon, hein, mais malgré tout ce qu'il a fait, la cour d'assises a décidé, a jugé, a condamné, c'est un arrêt de la cour d'assises, il a 81 ans.
Oui, il a 81 ans, mais il a toute sa tête. Et le souci qu'il y a dans cette affaire, si vous voulez, c'est qu'on sait qu'il a violé son contrôle judiciaire et qu'il continue ses agissements et qu'il garde sous sa coupe des personnes. C'est ça la difficulté, c'est que s'il ne respecte pas son contrôle judiciaire et qu'il garde des gens sous sa coupe, on ne peut qu'envisager une incarcération.
Je voudrais qu'on dise un mot pour finir des victimes. On en a vu certaines témoigner cette semaine, qui ont osé parler à visage découvert, et on imagine que ça a pu leur coûter. Ces femmes, elles ont commencé à reconstruire leur vie. On se remet, Johanna Rosenbaum, on arrive à se soigner, à dépasser ça.
Tout l'enjeu, c'est de réussir à conscientiser l'emprise et l'assujettissement auquel on a été soumis. C'est le chemin qui est le plus long et le plus dur. Ça peut aller de quelques mois à plusieurs décennies de sortir de ce mécanisme d'emprise, mais dans tous les cas le traumatisme est là. C'est une grande souffrance de réaliser qu'on a été à ce point assujetti et maltraité au sein d'une dérive sectaire, donc c'est un long travail de reconstruction.
Est-ce qu'il y a, pardon d'un mot, un peu de soulagement après ce jugement de
la... Il y a beaucoup de soulagement parce que c'est la démonstration, si vous voulez, qu'elles ont été crues par la justice. En plus de ça, on a des adeptes, je pense à une d'entre elles, pour qui elle a été reconnue comme victime également, ce qui est quand même assez inédit, mais qui démontre, si vous voulez, la compréhension et les dégâts que peuvent octroyer cette emprise.
Merci beaucoup. Merci à vous deux, Dominique, sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci, Dominique. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. D'ici là, passez un bon dimanche sur BFM TV.